Bienvenue sur le podcast Le SaaS des leaders, votre espace-temps pour ensemble passer à la prochaine étape et avancer en cohérence avec les nouvelles attentes de la société.
Jacques, merci beaucoup d'avoir accepté à nouveau cette invitation pour faire partie du podcast Le SaaS des leaders. Alors écoute, aujourd'hui, moi, je te reçois parce que tu as sorti un nouveau livre qui s'appelle « Libérer la motivation avec la théorie de l'autodétermination ». Alors, je t'avoue que je m'aurais envie d'en savoir plus sur le concept. Donc, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer les grands principes de l'autodétermination ?
Avec plaisir. Donc, la théorie de l'autodétermination, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle fait, ça fait 50 ans qu'elle existe et elle est utilisée dans différents domaines par plusieurs centaines de chercheurs différents. Donc, on a écrit le livre grand public pour la faire connaître, mais d'un point de vue scientifique, elle est très robuste et testée. Et en gros, la théorie, ce qu'elle cherche à trouver, c'est pourquoi on fait ce que l'on fait et quelles conséquences ça a, la qualité des raisons que l'on invoque. Une des mini-théories de la théorie de l'autodétermination, c'est les qualités des motivations. Et la théorie postule qu'il y a 4 grandes motivations qui existent, que l'on peut invoquer pour faire le travail, pour faire des activités, pour avoir des enfants, pour faire du bénévolat, pour avoir plusieurs activités. Donc, c'est le plaisir, le sens, la pression interne et la pression externe. Donc, une cinquantaine d'années de recherche dans différents domaines, dont le travail, qui est notre secteur de spécialité, nous montre que plaisir et sens génèrent bien-être et performance. Et les pressions internes et externes, sans que ce soit entièrement négatif, il y a un petit peu de conséquences positives, mais aussi beaucoup de conséquences négatives. Donc, ce sont des motivations que l'on peut dire de moins bonne qualité. Donc, ça, c'est le cœur de la théorie, c'est de voir les qualités des motivations.
Juste, parce que ça semble, c'est pas si évident que ça, savoir quelles sont les pressions internes et externes. Qu'est-ce que tu qualifies de pression interne et externe, Jacques?
Oui, ça c'est une bonne question. La pression interne, dans notre langage scientifique, on l'appelle la motivation introjectée. La motivation introjectée, c'est par exemple vouloir se prouver à soi-même que l'on est capable, donc c'est interne à soi, on veut se prouver à soi-même que l'on est capable, ou encore on veut éviter la honte et la culpabilité. Donc c'est à la fois l'approche de la fierté et l'évitement de la honte et de la culpabilité. Donc c'est entre les deux oreilles, c'est pour ça qu'on appelle ça la pression interne, le terme scientifique étant motivation introjectée. Et les pressions externes, comme le nom le dit, c'est les pressions, qu'elles soient sociales ou matérielles, qui sont extérieures à soi. Vouloir une promotion, vouloir un bonus, vouloir que ses collègues nous voient sous un bonjour, vouloir plaire à notre manager, c'est de la motivation extrinsèque, qu'elle soit sociale ou matérielle. Donc, pression interne et externe, c'est mathématiquement, statistiquement relié. Mais on peut le séparer. Un, c'est entre les deux oreilles, pour utiliser une expression québécoise. Puis l'autre, c'est à l'extérieur de soi.
OK, parfait. Et alors, donc, du coup, comment on cultive, comment on stimule ces grands leviers de motivation et quel est leur impact, en fait, hein, de travailler sur celles-ci plutôt que d'autres?
Oui, donc ce que la théorie va dire, ce que les recherches de méta-analyse ressortent, c'est que plaisir et sens, donc les motivations qu'on appelle en recherche motivation intrinsèque et identifiée, donc le plaisir et le sens, ce sont nos meilleurs alliés, que ce soit pour nous-mêmes ou nos collègues, que l'on soit manager ou collaborateur, on est tous des êtres humains. Les trois piliers d'une bonne motivation de qualité, c'est les trois besoins psychologiques innés et universels d'autonomie, de compétences et d'affiliation sociale ou d'appartenance. Donc, la recherche a évolué depuis la fameuse pyramide de Maslow ou la théorie de Herzberg. Donc, c'était des belles approximations. Mais la recherche récente montre qu'on a plein de besoins, mais systématiquement, les trois plus importants, à la fois pour expliquer ce qui va plus bien et moins mal, ce sont ces trois besoins-là. Donc, le besoin d'autonomie, c'est d'agir en conformité avec ses valeurs et de sentir qu'on est l'initiateur de nos actions. Donc, c'est un mélange de choix et d'authenticité.
Okay.
Le besoin de compétence, c'est le besoin d'efficacité, le besoin d'impact. On veut être capable d'avoir une influence sur son environnement, de surmonter les défis qui sont mis sur notre chemin. Puis finalement, le besoin d'appartenance sociale ou d'affiliation ou de connexion, c'est de sentir qu'on fait partie d'un groupe et que le groupe peut faire, peut prendre soin de nous. Donc, c'est bidirectionnel. Donc, ces trois éléments-là, moi, je les appelle les vitamines psychologiques. C'est comme une alimentation saine qui augmente les bonnes motivations. À l'opposé, quand ces besoins-là sont frustrés, donc quand on n'a pas de choix, quand on se fait imposer des choix qui vont à l'encontre de nos valeurs, lorsqu'on est activement incompétent et repoussé par les autres, on va se rabattre sur des stratégies compensatoires. On essaie de compenser avec l'ego et les récompenses, ce qui amène des conséquences négatives. Donc, les trois besoins, c'est vraiment les piliers de la bonne motivation.
Parce que tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, j'ai enregistré un autre podcast avec Bernard Anselm, qui effectivement est médecin et chercheur en neurosciences. Et en fait, il valorisait ces éléments-là qu'il qualifiait finalement ou qu'il synthétisait à travers trois verbes, qui est de se dire finalement, pour faire face à une montagne d'efforts dans la vie, il faut identifier une montagne de plaisir et de désir. Et donc, apprendre plus, aimer plus, donc appartenir davantage à un groupe social, et puis effectivement, créer ou agir plus. Alors, tu vois, ça revient aussi à ce que tu disais. Si ce n'est que, si je comprends bien, on a deux éléments nouveaux qui sont effectivement cette notion de pression interne et pression externe qui nous amène à aller plus loin, finalement, dans le concept. Alors, en quoi elle nous amène à aller plus loin que ces éléments
Il y a beaucoup de modèles qui existent. Il y a beaucoup de conceptualisations, que les conceptualisations soient scientifiques ou grand public ou pratiques. Mm-hmm. On va parler d'engagement, on va parler de mobilisation, on va parler de qualité, de motifs, on va parler de plein de mots différents. Ce que la théorie de l'autodétermination fait, c'est comme passer un rayon X. Quand on dit « Ah, j'ai mal ici », quand on passe le rayon X, on est capable de voir au travers, au-delà des apparences, qu'est-ce qui se passe. Si on lève le capot d'un être humain, le figurativement parlant, si on lève sa tête puis on regarde ce qui se passe dans le cerveau des gens, là, ce qui est le fun de la théorie de l'autodétermination, c'est qu'elle montre que peu importe que vous soyez col blanc, col bleu, syndiqué, pas syndiqué, que vous soyez français, québécois, polonais, turc, estonien, il y a des principes universels. Et les principes universels qui sont soutenus par de récentes méta-analyses, c'est que plaisir et sens, systématiquement, que ce soit pour le travail, pour les études ou pour la vie en général comme citoyen, comme personne du monde, c'est toujours systématiquement mieux pour nous et pour les autres autour de nous.
Okay.
Parfois, le fait d'avoir des pressions externes ou internes vont nous pousser à agir, mais moins longtemps, moins efficacement, et avec des coûts psychologiques, émotionnels et physiques beaucoup plus élevés. Moi, je vois souvent dans nos interventions ou dans mes formations des managers qui croient à tort qu'une pression énorme ou des concours de performance vont stimuler. C'est clair que ça va fonctionner à court terme pour la quantité avec des coûts psychologiques, émotionnels et physiques très élevés. Ces managers-là continuent à sévir en croyant qu'ils font les bonnes choses.
Alors, c'est intéressant parce que du coup, effectivement, tu amènes sur des prises de conscience qui sont en train de voir le jour quand même, même si, effectivement, on ne va pas enlever à un bon manager d'aimer basiquement ces gens. Tu vois, c'est déjà beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a aussi cette notion de, comme tu disais, donner du sens, les amener aussi à voir davantage quelles sont leurs forces. Hein, et on a fait tout un podcast là-dessus, Jacques, qui met en lumière à quel point, effectivement, déjà en tant que manager, si on amène un collaborateur à identifier, à déterminer ses forces, ça va avoir un impact sur la performance qui va être important et sur sa motivation notamment. Donc justement, au-delà de ça, si ce n'est de ce que j'entends aussi, cette notion d'autonomie, hein, donc se dire finalement comment j'amène mes individus à être davantage autonomes, hein, dans ce qu'ils font, mais aussi finalement au niveau de l'équipe. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les leviers concrètement? Qu'est-ce que toi tu conseillerais en tant que, bah justement, en tant que professeur dans le domaine et ayant fait ce bouquin spécialisé sur la motivation? Quels sont les...
Il y a trois grands faisceaux que l'on peut activer. Ouais. On en parle dans le livre, puis dans certains chapitres de livres scientifiques, on les parle. Les trois grands faisceaux, c'est la rémunération, ouais, l'organisation du travail et les relations interpersonnelles. Donc, dans notre livre, on a un chapitre complet qui s'appelle « Le salaire idéal selon la théorie de l'autodétermination ». La rémunération peut être un fantastique vecteur de démotivation si c'est injuste, inéquitable, caché, non transparent et contrôlant. Lorsque la rémunération est juste, équitable, transparente et informative, elle peut avoir un peu d'effet positif et moins d'effet négatif. Donc, l'argent, c'est un élément de motivation, mais beaucoup moins que ce que l'on pense. Ça va plus souvent être un facteur de démotivation. Donc, ça, c'est le premier faisceau, le premier levier.
Donc, ce que j'entends quand même, c'est de se dire finalement, attention, la rémunération, ce n'est pas un facteur de motivation principale qui va vous permettre de créer un engagement monstrueux de la part de vos équipes et de vos gens.
Est-ce que c'est ça? Non, c'est exactement ça. Vous avez exactement raison. C'est que si on compare le pouvoir motivationnel de l'argent par rapport à avoir quelqu'un qui nous gère de manière humaine, c'est de 2 à 3 fois plus puissant un bon patron qu'une bonne rémunération.
Yes, hein, quand même. Hein. C'est bon de revenir sur des basiques quand même. Donc, voilà, donc ça, c'est parfait. Donc, manager, surtout, soyez compris. Comprenez ça, la motivation première, ce n'est pas l'argent. Voilà.
Ça peut être très démotivant si on est sous-payé et en même temps, dès qu'on a atteint un seuil qui est relativement équitable, d'autres facteurs vont prendre le pas. Donc oui, vous avez raison.
Alors, tu m'as parlé de 3 grands faisceaux. Donc le premier, c'est de se dire finalement, attention, la rémunération, c'est pas ce qui va motiver vos gens. Mais ça peut gravement démotiver, hein, on s'entend, hein, comme tout acte effectivement de non-reconnaissance. D'ailleurs, on parle de, pour 3 feedbacks négatifs, il faut 3 feedbacks positifs. Hein, on reste toujours sur les mêmes leviers. 2 autres grands faisceaux, Jacques, c'est quoi?
Oui, donc la rémunération peut être un facteur. Le 2e grand faisceau, c'est ce qu'on appelle en anglais le job design ou l'organisation du travail, qui est souvent un faisceau qu'on oublie. C'est comment on séquence les tâches. Donc, qui fait quoi, quand, où et comment. Donc, une tâche qui va être très variée, dont on voit les effets, ça n'a pas recours ni à la rémunération, ni à la relation interpersonnelle. C'est dans ce qu'on fait. Est-ce que j'utilise mes forces plutôt que mes faiblesses? Est-ce que j'ai une variété dans les tâches ou pas? Est-ce que je vois l'effet de mon travail ou pas? Pour donner un exemple, là, il y avait une usine du fabricant de voitures Volvo en Suède. Au lieu de faire un travail à la chaîne, ils ont fait des équipes de travail semi-autonomes où chaque sous-équipe assemblait une voiture complète. Mm-hmm. Puis pour ramener la fierté auprès de l'équipe, on soudait une plaque de métal sur laquelle il y avait les noms des gens qui avaient construit la voiture. Donc, c'était la même tâche, construire une voiture, mais puisqu'on intervenait sur toutes les sphères possibles des tâches qui rendaient la voiture complète, il y avait un sentiment de fierté beaucoup plus grand que si on assemble la roue avant droite d'une voiture, par exemple.
Donc, c'est comment on donne du sens à ce que l'on fait, hein? C'est un peu la théorie du maçon que tu dois connaître, à qui on demande qu'est-ce que tu aimes dans ton travail. Et puis, il y en a un qui dit, moi, ce que je fais, c'est assez laborieux parce que c'est juste mettre des pierres et du ciment. Puis, il y a l'autre à qui, effectivement, on a expliqué le pourquoi il faisait les choses, où il se dit, moi, j'adore ce que je fais parce que je construis une cathédrale. Donc, on est sur la même chose. Donc, plus on apporte cette visibilité sur, finalement, le pourquoi je me lève le matin et à quoi je contribue, plus, effectivement... Donc, organisation du travail, c'est finalement comment j'amène à mes collaborateurs à voir l'impact, hein, de ce qu'ils font et en cohérence avec, j'imagine, ce qui leur importe aussi?
Bien, si à l'intérieur des tâches, on a l'explication du pourquoi, on a le rationnel sous-jacent, on sait quelle différence on peut faire. Il y a des enquêtes passionnantes qui sont faites, par exemple, avec des concierges dans des hôpitaux, donc des gens responsables de l'entretien ménager. Mm-hmm. Certaines personnes ne font que leur tâche minimale en disant « je dois laver des surfaces, je dois laver des planchers, des poignées de porte, etc. » Puis il y en a d'autres auxquelles on a expliqué que ça réduisait les infections croisées, les infections nosocomiales. Donc, ces gens-là se sentent des vecteurs de santé plutôt que simplement des nettoyeurs payés à l'heure. Ouais. Donc, l'organisation du travail, c'est un autre grand faisceau. C'est le deuxième de trois.
Moi, ça m'interroge pourquoi vous avez appelé ça organisation du travail alors qu'on est plus sur la notion de sens, quelque part.
Oui, les faisceaux sont pas mutuellement exclusifs. Mais par souci de simplicité, puis lorsqu'on regarde la recherche, ça devient plus simple de parler de job design, d'organisation du travail, parce qu'on va analyser, par exemple, les demandes de type défi ou obstacle ou les ressources qu'on a pour surmonter les défis. Donc, c'est vraiment la nature du travail. Donc, on l'appelle organisation du travail, mais on pourrait l'appeler nature du travail ou séquençage de tâches.
Oui, je comprends. C'est comment, finalement, tu permets à tes collaborateurs de se rapprocher au plus de la mission, finalement, de l'entreprise, quelque
part. Entre autres,
oui. Ouais, c'est ça, d'accord. Et de leur force, de ce que j'entends.
Bien, ça va être une ressource intrapersonnelle très puissante que de tabler sur les forces plutôt que diminuer les faiblesses ou simultanément diminuant les faiblesses.
OK. Donc, ton troisième faisceau?
C'est les relations interpersonnelles, qu'elles soient hiérarchiques ou non. Donc, que ce soit notre manager ou des collègues, interpersonnellement, certaines actions ou comportements permettent de plus satisfaire et moins frustrer les besoins. Donc, de donner le rationnel, de donner des choix à l'intérieur de certaines règles et limites, d'accepter et d'accueillir les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, c'est tout des comportements.
C'est pas si, quand tu parles de donner du rationnel au relationnel, je te dirais que pour nos auditeurs, c'est pas si simple que ça. Alors, c'est quoi donner du rationnel au relationnel?
Donner du rationnel en relation hiérarchique ou égalitaire, c'est d'expliquer le pourquoi.
Le pourquoi quoi?
Pourquoi on fait les choses. Donc, par exemple, si on explique à un travailleur sur un chantier de construction, accroche ton harnais. Versus si on lui dit... accroche ton harnais, parce qu'en cas de chute d'un troisième étage, c'est comme si tu faisais un accident à 70 km/h sans ceinture de sécurité. Je tiens à toi et c'est important pour moi de te garder en vie. Donc, on explique le rationnel à travers une relation. Donc, les gens peuvent librement accepter ce rationnel-là pour s'y identifier.
D'accord, mais alors tu vois, parce que moi, quand tu me dis relationnel, j'étais plus sur la relation à l'autre, sur justement ce côté comment je développe l'affect, dont on a parlé tout à l'heure en termes de motivation durable. Et là, j'ai l'impression qu'on part sur autre chose.
Bien, en fait, non. On est exactement là-dessus. Donc, le relationnel est générateur d'émotions, mais il ne faut pas négliger les autres sources non plus.
OK, mais donc du coup, au niveau du relationnel, en tant que manager, là, si demain, j'ai un manager, il me dit « OK, Ivan, juste décrypte-moi là, les trois grands faisceaux. » Donc, on a entendu la rémunération, c'est surtout, attention, ce n'est pas un facteur de motivation, mais ça peut être un énorme facteur de démotivation. L'autre élément qui est clé, c'est quand même finalement comment tu t'assures auprès de tes équipes de les ramener au plus près de la mission d'entreprise et leur faire voir et comprendre ces éléments-là, au niveau de leurs tâches, tout en les interreliant finalement aussi à leur capacité à capitaliser sur leurs forces au quotidien. Et puis le troisième élément, alors qu'est-ce que je lui explique simplement? Ça serait quoi? Qu'est-ce que je lui dis de faire?
Pour l'autonomie, c'est de donner des choix et d'expliquer le rationnel. Pour la compétence, c'est d'échafauder les obstacles, les buts pour qu'ils soient stimulants. Et l'affiliation, il faut faire montre d'empathie et de chaleur humaine. Donc, dans les relations interpersonnelles, il faut émettre les comportements qui, chez notre réceptionnaire, vont satisfaire les trois besoins. Je vous donne des exemples. En contexte sportif, les coachs qui satisfont les trois besoins vont plus gagner de médailles parce qu'ils ne veulent pas gagner de médailles. Ils veulent prendre soin de leurs gens, ce qui amène comme conséquence le fait d'avoir des athlètes performants parce qu'ils sont bien.
Ok, mais si tu donnes des petits insights, notamment, je t'avoue que sur la dernière composante, pour moi, c'est un peu flou. Donc, je me permets de recreuser, Jacques, parce que sur le troisième grand faisceau,
oui.
Hein, qui est le relationnel, donc, en tant que manager, ça veut dire quoi ? À quoi je dois être vigilant et qu'est-ce que je dois mettre en place pour que cette sphère-là soit activée ?
Un des trucs qu'on dit souvent, là, c'est, ça dépend des cultures. Là. En France, il y a une plus grande distance hiérarchique qu'on a, par exemple, au Québec. Là. Mais c'est le simple fait de se rendre compte qu'on a un humain en face de nous. C'est un humain qui parle à un autre humain.
Ouais. C'est vrai. Tu sais que ces derniers temps, je fais pas mal de formations, et notamment aussi en communication non violente. Et sur l'approche de tout ce qui est la gestion des émotions, dès lors où on amène la personne à prendre conscience à quel point nommer ses ressentis peut nous permettre de nous connecter à l'autre, non pas à l'autre professionnel, mais à l'autre humain qui est face à nous, et ben ça permet de lever bien des obstacles au niveau relationnel et puis de construire ensemble la relation. Et c'est ça que tu es en train de dire finalement.
Pour ce qui est de l'affiliation sociale, c'est de faire montre d'empathie, de refléter les sentiments de la personne et de valider les émotions. Mmh. Toutes les émotions sont recevables, ce ne sont pas toutes les actions qui sont recevables. Quelqu'un qui est en colère, on lui dit de ne pas se fâcher, mais c'est légitime d'être en colère. Mais si lorsqu'il est en colère, il détruit son bureau, c'est là qu'il faut intervenir. Même chose avec un enfant, même chose avec un athlète. Quand on comprend au-delà des apparences que chaque être humain a besoin à tous les jours d'être soi-même efficace et connecté, c'est là qu'on est capable de designer des systèmes sociaux, de designer des familles, des équipes de sport, des organisations où les gens s'émancipent, s'actualisent, sont bien et bons.
En tant qu'individu, si on a envie de prendre le temps de finalement développer son autodétermination, et tu vois notamment, c'est vrai que quand on pense... À chaque année, finalement, on se retrouve avec notre grande résolution qui tiennent finalement, en général, pas plus de 3 semaines et qu'on lâche au bout de la 4e semaine. Quels sont les éléments, finalement, tu vois, par rapport à des choses qu'on désire réellement qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour finalement aller de là, et notamment avec ce principe de l'autodétermination.
Bien, il y a des enquêtes fascinantes qui sont faites sur justement les résolutions du nouvel an. Et ce que les résultats montrent, c'est que des raisons autodéterminées, donc que ce soit intrinsèque ou identifié, que ce soit par plaisir ou parce que c'est important pour soi, vont être de meilleurs alliés pour que ça se maintienne dans le temps. Et il faut combiner ces bonnes qualités-là, ces bonnes qualités de motivation à ce qu'on appelle en anglais des implementation strategies, des stratégies d'implémentation. Donc, ça se traduit mal en français, mais c'est de dire, est-ce que j'ai un plan d'action clair et cohérent pour me rendre à destination? Les gens qui ont des motifs plus autodéterminés et qui ont des stratégies pour implanter leur choix sont les personnes les plus susceptibles de tenir leur résolution du nouvel an. D'un point de vue vulgarisé, c'est moi, je m'amuse souvent avec la question qu'on appelle la question loterie. La question loterie va comme suit, c'est si vous aviez suffisamment d'argent pour vivre confortablement jusqu'à la fin de vos jours, est-ce que vous continueriez à travailler? Puis à cette question-là, c'est 3 personnes sur 4 qui continueraient de travailler. Donc, dans vos organisations, si là, on mettait l'argent de côté, là, si on disait là, inquiète-toi pas de ta maison, de ta voiture, puis de la nourriture, puis de ton voyage annuel, là, c'est réglé. Là. Qu'est-ce que tu as le goût vraiment de faire pour faire une différence dans ce monde? Puis c'est là que les gens vont exprimer leur... En recherche, on l'appelle le bien-être eudémonique, c'est leur plus profonde valeur, leurs désirs les plus profonds.
Moi, effectivement, je suis une grande aussi ambassadrice du sens et du pourquoi on se lève le matin. Mais ça m'est arrivé aussi d'avoir des personnes qui m'ont dit « Mais moi, je n'ai pas envie de faire une différence, là. Il faut arrêter avec ce concept de sens. Moi, ça ne me parle pas. J'ai envie de me faire plaisir, mais de là à ce que je change le monde, non. » Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi, Jacques?
Ça doit être des gens, là, quand on fait des regroupements ou ce qu'on appelle des profils motivationnels, c'est peut-être des gens En anglais, on les appelle les 9-to-5ers, les gens qui font du 9 à 5 classique, puis c'est bien correct. Ils veulent peut-être pas faire de différence ou on ne les a pas habitués à réfléchir à cela et ils n'ont jamais eu la chance de le vivre. Fait que moi, je suis un optimiste de nature. Je trouve qu'à quelque part dans leur vie, il y a un élément sur lequel ils voudraient faire une différence. Ça peut être aussi simple que rendre ses enfants heureux, avoir une vie de couple harmonieuse, avoir des loisirs en week-end qui sont agréables, mais c'est quand même des désirs profonds qu'on peut aller chercher en écartant du chemin l'argent.
Et au-delà de cette grande question de la loterie, quelle autre question on peut se poser pour affiner un peu ce principe d'autodétermination?
Bien, une autre intervention qu'on utilise, d'autres, qui est assez simple, c'est on couche sur une feuille de papier les items scientifiques que l'on utilise pour mesurer la satisfaction du besoin d'autonomie, de compétence et d'affiliation. Puis on demande aux gens de lister les ingrédients dans leur vie, dans leur travail, dans leur tâche, dans leur bénévolat, dans toute leur existence. Qu'est-ce qui donne des vitamines au cerveau? Qu'est-ce qui vous permet d'être vous-même? Qu'est-ce qui vous permet d'aller de dépasser vos limites? Qu'est-ce qui vous permet de donner du courant et de recevoir du courant électrique des autres, de donner puis de recevoir de l'amour? Donc, les gens listent ça et finalement, ils ont la recette du bonheur sur leur feuille parce qu'ils ont listé c'est quoi leur source de vitamines. Donc, il y a plein de chemins différents qu'on peut utiliser. Mais ce qui est le fun de la théorie de l'autodétermination, je le répète, là, c'est que ça fait 50 ans qu'elle est là, est testée par plusieurs centaines de personnes, donc elle n'est pas parfaite, mais ça enlève beaucoup d'approximations. C'est vos buts autodéterminés dans la vie, on les force à penser à ça, puis on se rend compte quelques semaines après dans les enquêtes que le simple fait de les avoir amenés à leur esprit augmente la probabilité qu'ils les suivent, donc...
Écoute, je te remercie beaucoup pour ce temps, encore une fois, toujours aussi intéressant d'aller capter ton savoir, Jacques. Donc, merci pour...
Ça m'a fait grand plaisir.
Vous avez écouté le podcast Le SaaS des leaders. Si vous aussi avez envie de passer à la prochaine étape dans votre carrière, le développement de votre leadership ou avec vos équipes, rendez-vous sur le-sas-coaching.com.